Tout de suite le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'humanité doit choisir entre l'espoir d'un monde meilleur en agissant ou bien la capitulation. Déclaration ce matin du secrétaire général de l'ONU à l'ouverture de la COP25. Les signataires de l'accord de Paris réunis à Madrid sont pressés de toutes parts d'accélérer les mesures pour réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre et espérer ainsi encore un peu limiter le dérèglement climatique.
À 4 jours maintenant de l'appel à la grève du 5 décembre, le ministre de l'Économie et des Finances a dit ce matin s'attendre à une mobilisation forte.
Oui, Bruno Le Maire qui temporise et précise également que les négociations sur la réforme des retraites sont loin d'être terminées.
Des centaines de personnes se pressent depuis ce matin sur le pont Alexandre III à Paris pour assister au passage des 13 corps des soldats tués la semaine dernière au Mali, Thomas.
13 cercueils en route vers l'hôtel des Invalides où Emmanuel Macron prononcera cet après-midi un éloge funèbre. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Pierre Servent, expert en stratégie militaire et spécialiste des questions de défense. Enfin, 3 jours après avoir annoncé des représailles contre le soutien des États-Unis à Hong Kong, la réponse de la Chine ne s'est pas fait attendre. Pékin a sanctionné ce matin la marine américaine ainsi que plusieurs ONG. Et puis, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec le cinéaste palestinien Elia Souleiman, son nouveau film, long métrage It Must Be Heaven, sort en salle mercredi. Il se demande comment filmer le conflit sans le montrer, comment raconter ce que l'on est sans se laisser enfermer dans une identité. Ce cinéaste citoyen du monde, Elia Souleiman, sera avec nous dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Même si les épisodes méditerranéens dramatiques de ces derniers jours responsables d'un lourd bilan humain après des pluies diluviennes et des inondations non moins impétueuses dans le sud-est de la France ne peuvent être directement attribués au réchauffement climatique, il n'en reste pas moins que la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, tant par leur fréquence que par leur intensité, apparaît bien souvent comme un signe dramatique supplémentaire de l'urgence à agir aujourd'hui contre le dérèglement climatique. En moins d'un an, pas moins de 4 rapports des scientifiques de l'ONU sur l'état de la planète ont déjà sonné comme de véritables coups de tonnerre de nature à susciter des appels pressants à des actions aussi immédiates que radicales. Pour ne citer qu'un seul exemple, les 4 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Reste au-delà donc de ce constat alarmant à savoir si la 25e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est ouverte ce matin à Madrid offrira autre chose qu'un spectacle médiatisé autour de la reconnaissance une fois de plus de la nécessité d'agir. Véronique Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place à Madrid. Alors pour l'essentiel, cette conférence devra s'assurer que les mesures nécessaires sont bien mises en œuvre pour que l'accord de Paris signé en 2015 soit respecté. Or, on sait d'ores et déjà que nombre de pays parmi les plus émetteurs de CO2 ne remplissent pas leur part du contrat. Et c'est ainsi, Véronique, que tous les yeux se tournent désormais vers l'Union européenne.
Oui, car les pays les plus développés ne font pas leur part du boulot. Leur implication est pourtant vitale, sans quoi il n'y aura plus qu'à mettre la clé sous la porte de la planète. C'est ce qu'a dit en substance ce matin Antonio Guterres en ouvrant cette COP25. Et comme beaucoup ici, le secrétaire général des Nations Unies regarde bien du côté de l'Europe pour relancer ses négociations sur le climat et avoir un effet d'entraînement. C'était d'ailleurs la teneur aussi du discours ce matin du Premier ministre français Édouard Philippe.
L'Europe, c'est à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Ça n'est donc pas le continent qui est le plus responsable aujourd'hui, mais l'Europe, c'est le continent qui veut être en avance et qui veut entraîner les autres dans une ambition collective. La semaine prochaine, au moment même où continuera de se dérouler cette COP, les chefs d'État et chefs de gouvernement européens se réuniront pour avancer eux aussi dans la voie d'une politique plus ambitieuse. Et nous avons tenu ce matin avec les chefs de gouvernement une réunion pour essayer de préparer les engagements qui seraient susceptibles d'être pris la semaine prochaine.
Voilà, les regards se tournent surtout du côté du Parlement européen qui vient de décréter l'urgence climatique et du côté aussi de l'Allemande Ursula von der Leyen. La nouvelle présidente de la Commission européenne prendra d'ailleurs la parole ici à Madrid tout à l'heure. Aussitôt élue la semaine dernière, elle a martelé que le cœur de son action serait la transition vers une planète plus saine. Son objectif est bien mettre en place un Green Deal européen, un pacte vert dont le premier volet sera dévoilé, Édouard Philippe vient de le dire, le 11 décembre prochain, donc en pleine COP. Elle devrait annoncer la création d'un fonds de transition juste, des aides financières pour convaincre les pays européens dont l'économie repose sur le charbon et bien d'y renoncer. La Pologne reste réticente mais serait sur le point de céder. Et puis les 12 et 13 décembre, le Conseil européen défendra son objectif de neutralité carbone en 2050. Et bien en s'engageant, en montrant l'exemple, l'Europe devrait logiquement prendre le leadership de ces négociations climatiques qui manquent cruellement, mais vraiment cruellement, d'impulsion politique.
Merci Véronique Robert en direct de Madrid. Et puis toujours s'agissant de cette COP25. Je précise qu'Emmanuel Macron, lequel a pourtant placé l'écologie au cœur de son discours et de ses priorités affichées depuis le début de sa mandature, ne se rendra pas à Madrid, pas plus d'ailleurs qu'il ne l'avait fait lors de la dernière conférence en Pologne. Alors cette fois-ci, l'Élysée avait expliqué il y a quelques jours avoir souhaité alléger l'agenda du président, en prévision notamment du sommet de l'OTAN à Londres demain, mais aussi du cyclone social annoncé pour jeudi prochain. Car à 4 jours maintenant de cette journée de grève qui s'annonce massive, le scénario tant redouté par l'exécutif s'appelle désormais, sinon la convergence des luttes, à tout le moins celle des colères. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Hier soir, à l'occasion d'un séminaire à Matignon où la décontraction était visiblement de mise, le gouvernement s'est bien gardé de dévoiler ses propres options, une manière sans doute de se garder des marges de manœuvre, au risque, Stéphane, de livrer un message confus entre promesses d'ouverture et fermeté.
Rien n'est clair, effectivement, et pour cause, le gouvernement semble aujourd'hui avoir complètement entériné et accepté l'épreuve de force qui s'annonce. Chaque ministre est chargé, pour ce qu'il concerne, de mettre en œuvre ce qui est prévu par la loi en termes de continuité du service public, mais rien de plus, car jeudi prochain sera une journée noire, il faut faire avec, le compte à rebours est lancé, il ne sert à rien de négocier ou d'annoncer quoi que ce soit d'ici là. Et en attendant, donc, les ministres sont chargés de délivrer la bonne parole gouvernementale, de la marteler même, à l'image de ce qu'a fait le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin sur l'antenne de France Inter.
Je suis là pour expliquer à quel point le régime de retraite que nous avons construit en 1945 est à bout de souffle. Il est injuste, il est fragile financièrement et il est extraordinairement complexe. Nous ne transformons pas le système de retraite pour que certains gagnent et d'autres perdent. Nous le transformons pour qu'il puisse durer dans les années qui viennent. Que ce ne soit pas le règne du chacun pour soi, nous voulons remettre de la justice dans ce système de retraite qui aujourd'hui n'est pas juste.
Pas juste, remettre de la justice, Bruno Le Maire souligne à gros traits et au stylo rouge le cap de cette réforme, voilà ce qu'on veut faire. Mais à aucun moment il ne dit comment on veut le faire. Parce qu'officiellement on n'en est pas là. Les premiers arbitrages, les premières préconisations qui délimiteront le cadre de cette réforme seront annoncées par Jean-Paul Delevoye mardi de la semaine prochaine, le 10 décembre. Pour l'heure, on en est encore dans une logique de posture. Cette contestation est perçue et considérée par Emmanuel Macron comme étant essentiellement politique, avec des organisations syndicales qui essaient de se relégitimer auprès de l'opinion. On envoie donc au front les ministres les plus politiques du gouvernement, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, en attendant de voir qui, parmi les Français, s'impliqueront dans la grève et la contestation.
Merci Stéphane Robert. Eux aussi espèrent toujours faire changer d'avis le gouvernement. Ce sont les entrepreneurs du bâtiment qui protestent contre la volonté de l'exécutif de mettre fin à l'avantage fiscal dont ils bénéficient sur le gazole non routier. 5 dépôts pétroliers sont toujours bloqués ce matin à Brest, Lorient, Verne-sur-Sèche, près de Rennes, mais aussi Le Mans et La Rochelle, entraînant localement des difficultés d'approvisionnement dans les stations-service. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Une réunion se tient en ce moment même et depuis ce matin à Bercy entre le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et une délégation donc de professionnels du BTP. A priori, le gouvernement ne renonce pas à son projet, mais Anne-Laure promet un renforcement des contrôles.
Oui, l'idée c'est de ne pas remettre en cause à ce stade l'objectif, trouver près d'un milliard d'euros d'économies sur 3 ans. Dès le 1er juillet 2020, l'avantage fiscal sur le gazole non routier sera donc bien raboté de 45%. Le GNR qui est utilisé par ces professionnels du BTP, rappelons-le, pour les engins de chantier. Le gouvernement a déjà mis sur la table des contreparties, il le dit encore ce matin, elles ont été négociées avec les grandes fédérations du secteur, notamment la possibilité de répercuter la hausse sur les contrats en cours et puis des facilités pour acquérir des machines utilisant d'autres énergies que le GNR. À noter que les professionnels reçus ce matin sont issus d'une petite fédération, la CNATP, qui représente les artisans des travaux publics et du paysage, autrement dit les TPE-PME du secteur. C'est elle qui a mobilisé ses adhérents en Bretagne et dans la Sarthe. Alors, l'engagement qui a été pris devant eux ce matin par le ministre de l'économie, c'est une même égalité de traitement avec les entreprises de travaux agricoles qui exercent des activités de travaux publics. Les agriculteurs continuent, eux, de bénéficier d'un avantage fiscal sur le GNR. Or, le code des douanes est clair, explique Bercy, le même tarif doit s'appliquer pour les activités de travaux publics et ce, indépendamment de la profession principale du prestataire. Pour le ministère de l'économie, l'enjeu est donc de faire appliquer la loi, quitte à renforcer les contrôles douaniers pour éviter cette concurrence déloyale entre les entreprises du BTP et les entreprises de travaux agricoles. Voilà où on en est pour l'instant, alors que la réunion, vous le disiez, n'est pas terminée. Et on suivra bien sûr et bien évidemment la réponse des intéressés.
Merci Anne-Laure Jumet. Ils seront 13 cercueils de retour du Mali drapés de bleu, blanc, rouge dans la cour des Invalides à 15h cet après-midi. Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre avant de remettre à titre posthume la Légion d'honneur à chacun des 13 soldats tués il y a une semaine jour pour jour dans la collision de deux hélicoptères au cours d'une opération de combat dans le nord-est du Mali. Ou quand la France se retrouve aujourd'hui plus que jamais confrontée à une funeste image, celle de son engagement au Sahel contre les djihadistes du groupe État islamique. Voilà 6 ans maintenant que la France a choisi d'intervenir militairement à la demande du Mali. Or, depuis un accord de paix signé en 2015 avec les groupes, celui-ci peine visiblement à être appliqué. C'est ainsi que les groupes djihadistes ont profité de la défaillance des institutions pour s'implanter dans le centre du pays. De sorte que le Mali aujourd'hui n'arrive pas à sortir de l'impasse. Une situation qui alimente en l'occurrence les rancœurs des habitants à l'égard de la France, comme en témoigne le reportage à Bamako de nos envoyés spéciaux Benjamin Thuot et Valérie Crevard.
Dans une salle aux murs décrépits où les ventilateurs brassent de l'air chaud, la chaîne Énergie TV organise un débat. Son thème, la jeunesse et la crise malienne. Connue pour sa combativité, Adam Diko est une militante en vue. Elle dirige l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie au Mali.
Le terrorisme recrute qui ? Il recrute les victimes de la mauvaise gouvernance. Les victimes de la mauvaise gouvernance sont des gens qui n'ont pas accès aux services sociaux de base. Ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès à la santé, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont accès à rien. Maintenant, ces personnes-là sont vulnérables et sont récupérées par les terroristes.
La défaillance de l'État malien, Moussa Mara ne cesse de la dénoncer. Premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta, entre 2014 et 2015, son discours de rupture agaçait. Il a démissionné et créé un parti politique, le Changement, Yelema, en Bambara.
Le pays s'est écroulé parce que de l'intérieur, il était miné par la mauvaise gouvernance. Et ça continue malheureusement. Il y a énormément de corruption dans notre pays. Ça fait que les équipements militaires achetés ne sont pas forcément opérationnels. Vous avez entendu sans doute le chef de l'État lui-même dire qu'on a acheté des hélicoptères, mais ces hélicoptères sont cloués au sol. Les munitions n'arrivent pas à temps. Nous avons toujours une armée très faible.
Plus de 140 soldats maliens ont été tués depuis le mois de septembre. Face à la multiplication des attaques, certains maliens s'en prennent à la force Barkhane, incapable selon eux de venir à bout du phénomène djihadiste, malgré les moyens engagés. Adama Diarra se présente comme le chef d'état-major du mouvement On a tout compris.
On va faire 7 ans de présence française au Mali. Quels sont les résultats ? Le Mali n'est pas en train d'être défendu par la France. La France aujourd'hui doit préparer ses bagages vu qu'elle a été inefficace.
Face aux expressions d'hostilité exprimées par certains, le président malien a appelé ses compatriotes à ne pas mordre la main de ceux qui nous l'attendent, a-t-il dit dans un message diffusé samedi soir sur la télévision nationale.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer cette question de l'engagement de la France au Mali, mais aussi les enjeux du sommet de l'OTAN prévu demain à Londres, invité de la rédaction aujourd'hui, Pierre Servant, expert en stratégie militaire, spécialiste des questions de défense. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Bertrand Galichet. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Une première question monsieur Servant, après 6 années donc de présence ininterrompue, en dépit de quelques 4500 soldats français mobilisés dans cette bande sahélo-saharienne, vaste comme l'Europe, l'horizon apparaît de plus en plus plombé. La semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé vouloir réexaminer la stratégie des forces de l'opération Barkhane. Et puis surtout, le chef de l'État a appelé les Européens à s'engager davantage aux côtés de la France. Avec quel espoir de réussite ?
Un espoir faible, parce que les Européens ne se pressent pas au portillon de l'Afrique. Il y a vraiment une frilosité européenne qui est liée à la complexité du dossier africain en général et sahélien en particulier. Donc, un certain nombre de nos partenaires nous aident sur le plan logistique, mais craignent d'engager des troupes au sol, de subir des pertes. Donc, la France ne cesse d'essayer de secouer l'inertie européenne, mais en dehors de formation, de logistique, il y a un manque de combattants. Vous l'avez rappelé, la zone est considérable pour que les auditeurs la mesurent. C'est une zone qui va de Brest à Moscou. Et donc, effectivement, ce ne sont pas les 4500 soldats de Barkhane, surtout qu'il y a toujours une petite ambiguïté quand on parle de 4500 soldats. Vous savez que le soldat moderne aujourd'hui, il a besoin de beaucoup de soutien. Donc dans les 4500, vous avez un certain nombre de combattants qui sont là pour soigner, pour nourrir, pour héberger, pour s'occuper des munitions. Donc la force vive combattante est plus réduite. Il y a la MINUSMA, la force de l'ONU qui est présente avec 16 000 hommes. Ils font du boulot, mais c'est pas une force extrêmement aguerrie. Et puis c'était très bien dit dans votre reportage, il y a globalement une défaillance des armées africaines et singulièrement de celle du Mali. Malheureusement, malheureusement défaillance un peu historique, parce qu'il faut savoir que ces dernières années, ce sont les Américains qui, à renfort de dollars, ont essayé de former l'armée malienne, cette même armée malienne qui s'est débandée en 2012 devant les attaques des djihadistes et qui, en 2013, aurait été incapable de s'opposer à la descente des djihado-terroristes vers Bamako.
Question de Bertrand Galichet.
Bonjour Pierre Servent.
Bonjour.
La France réclame davantage d'implication au Sahel à ses partenaires européens. Elle leur demande aussi de se préoccuper beaucoup plus de leur propre défense, de la défense de l'Europe, en soulignant les limites de l'OTAN et les incertitudes sur l'avenir de l'Alliance Atlantique. Nous sommes à la veille d'un sommet important à Londres à l'occasion du 70e anniversaire de l'OTAN. Emmanuel Macron sera-t-il davantage crédible, davantage audible demain à l'OTAN après avoir parlé de l'état de mort cérébrale de l'organisation?
Écoutez, je pense qu'il y aura deux choses. Il y aura ce qui sera dit et ce qui sera pensé intimement. Je pense que le constat du président Macron est partagé par beaucoup. Il faut rappeler que l'OTAN, c'est une alliance politique avant d'être un outil militaire. L'outil militaire fonctionne plutôt pas mal. Mais la tête politique et diplomatique, elle est en état de mort cérébrale, parce que un des neurones principaux, le neurone américain, est tourné vers l'extérieur, vers l'Asie, et pas du tout vers l'OTAN. Et puis nous avons un cheval de Troie aujourd'hui dans ce cerveau, qui est la Turquie, qui en ce moment même où nous parlons, fait du chantage à l'intérieur de l'OTAN, en disant à l'OTAN, nous bloquons toutes les mesures prises pour la défense des pays de l'Est. Vous savez que nos amis baltes et polonais ont une trouille bleue de Moscou, donc un ensemble de dispositifs otaniens qui ont été pris, et les Turcs disent, si vous ne bénissez pas notre intervention ô combien géniale dans le nord de la Syrie, qui a créé un chaos supplémentaire et favorisé le renforcement de Daesh, eh bien nous bloquons cela. Donc le président Macron, son constat est absolument, incontestable. Il y a un état de mort cérébrale de la structure politique de l'OTAN. Deux, il fallait le dire. Trois, on va voir si ça bouge. Après quelques cris de protestation de nos amis allemands, finalement les Allemands ont dit « bon, il faudra peut-être créer un comité d'experts, commencer à réfléchir à tout cela ». Est-ce que ça va déboucher? C'est l'éternelle question. Ça fait 40 ans que je me penche sur ces questions et que vous avez débat sur comment renforcer le pilier européen de l'OTAN pour qu'il n'y ait pas, concurrence entre l'OTAN et l'Union européenne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les menaces ne sont plus seulement aux frontières, mais à l'intérieur. La menace, non pas du terrorisme, il y a toujours un peu une erreur. Le terrorisme, c'est un mode opératoire. L'ennemi, c'est le salafisme totalitaire. C'est ça l'ennemi et ça concerne tout le monde. Alors est-ce que cette menace, est-ce que cette nouvelle pression va permettre aux Européens de se bouger, de faire bouger la structure de l'OTAN? Réponse dans les jours qui viennent. J'ai un petit doute sur la qualité de la réponse qui va arriver, mais il faut faire avancer le débat. Et dernière chose, la France, pertinente au Sahel depuis des années pour alerter la communauté internationale, pertinente aujourd'hui pour dire à l'OTAN « bon, arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt, il y a un vrai problème, regardons-le ». Eh bien, je sais que c'est un peu obscène de dire du bien de la France, en général, mais je pense qu'on peut être fier du rôle de la France, membre permanent du Conseil de sécurité, pour essayer de faire avancer les choses. Et la France, elle paye le prix du sang de ce qu'elle dit.
Vous avez évoqué la question de la Turquie. Demain, Emmanuel Macron rencontre Recep Tayyip Erdogan à Londres, en marge du sommet de l'OTAN, en compagnie d'Angela Merkel et de Boris Johnson, une réunion sur la Syrie. Le problème central de l'OTAN aujourd'hui n'est-il pas justement la Turquie? Et est-ce que la question de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN est sur la table?
Alors, officiellement, non. Il y a des déclarations de Florence Parly en disant non, on met pas sur la table la présence ou non de l'OTAN, mais il y a un très sérieux problème turc. Quand vous avez un membre de votre famille qui achète du matériel militaire à l'extérieur à un pays qui n'est pas un ennemi, la Russie, mais qui est un adversaire et un pays préoccupant, alors que ce membre de la famille a par ailleurs du matériel de chez vous et qu'il est en train de faire les tests en ce moment, il y a un très sérieux problème. Quand ce même pays s'asseyant sur la solidarité des membres de l'OTAN s'engage au nord Syrie et crée une situation chaotique, il y a problème. Et enfin, comme je l'ai dit, si ce pays exerce chantage contre les Européens sur les immigrés et contre les pays de l'Est sur le thème « on vous défendra pas si on ne nous donne pas un blanc-seing », il y a un vrai problème turc au sein de l'OTAN.
Dernière question, Pierre Servent, avec une réponse très rapide. Les États-Unis, à terme, si Donald Trump était réélu, pourrait-il quitter l'OTAN ?
Non, 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 parce que ça arrange très très bien les Américains d'avoir la main sur l'OTAN, de mettre la pression sur les pays membres de l'OTAN en leur disant « augmentez votre budget de la défense », sous-entendu « achetez du matériel militaire américain ». Et donc, à mon avis, il n'est pas prêt de partir. Ils ont une position assez confortable. C'est pour ça qu'il faut que les Européens se réveillent. Il est temps qu'ils se réveillent. Il est tard, pas trop tard.
Merci Pierre Servent, expert, je le rappelle, en stratégie militaire, spécialiste des questions de défense, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également.
Merci.
Bertrand Galichet. C'était en février dernier, les ONG qui viennent en aide aux migrants dénonçaient un accord prévoyant la livraison par la France à la Libye de 6 navires, y voyant là une manifestation supplémentaire de ce qu'elle qualifie de politique de sous-traitance du contrôle de l'immigration décidée par l'UE en coopération avec Tripoli pour contenir l'afflux de migrants sur son sol. Et bien, leur appel a finalement été entendu puisque ce matin, on a appris que la France avait renoncé à la livraison controversée de ces 6 embarcations. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Dans un communiqué, les organisations non gouvernementales dont Amnesty et Médecins Sans Frontières estiment que cette décision est une victoire qui doit marquer un tournant dans la coopération sur la politique migratoire.
Une politique dont elle dénonce notamment l'opacité en matière de livraison d'armes, car ces bâtiments de gros zodiaques appartiennent à la catégorie matériel militaire. Ils auraient donc dû être couverts par l'embargo à destination de la Libye, estime notamment Amnesty International. Dans leur saisine de la justice, les ONG faisaient également valoir que la France se faisait ainsi complice d'atteintes graves aux droits humains des personnes réfugiées et migrantes, renvoyées en Libye après avoir été interceptées en mer, pour être enfermées dans des centres où elles risquent la torture, le viol, extorsion quand elles ne sont pas revendues à des milices. Des conditions inhumaines qui ont été dénoncées par les ONG, mais aussi par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés et longuement documentées. Alors cette cession de 6 embarcations rapides aux gardes-côtes libyens avait été annoncée par Florence Parly lors de la conférence de sécurité de Munich. C'était en février dernier. La ministre des Armées avait également annoncé le soutien de la France à un programme de formation et d'équipement des gardes-côtes libyens face, je cite, au problème de l'immigration illégale. 8 ONG, dont Amnesty, Médecins Sans Frontières ou encore la CIMAD, avaient alors saisi la cour d'appel et c'est dans un... Enfin, elles avaient d'abord attaqué l'État en justice, puis débouté en première instance, elles avaient saisi la cour d'appel et c'est dans un mémoire adressé à cette cour justement et daté du 28 novembre que la France a fait très discrètement marche arrière. La ministre des Armées renonce à livrer ses embarcations en raison de la situation en Libye, en proie effectivement à un conflit armé qui frappe durement les civils. Les ONG demandent maintenant à Paris d'aller plus loin et de poser des conditions strictes à toute coopération bilatérale et européenne avec Tripoli.
Merci Marie-Pierre Véraud. À Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, l'accord de cessez-le-feu a été de nouveau fragilisé ce week-end par 2 jours d'affrontements violents entre les forces pro-régime et des factions djihadistes et rebelles. Affrontements qui ont fait près de 70 morts ce matin encore. 10 civils ont été tués dans des frappes aériennes du régime. En Irak, le Parlement a approuvé hier la démission du Premier ministre, une annonce qui ne devrait toutefois pas mettre fin à la contestation qui a fait 400 morts en 2 mois. Les manifestants réclament une refonte complète du système politique. Ils accusent en particulier les élites irakiennes d'être corrompues, mais aussi de servir les intérêts de puissances étrangères, au premier rang desquelles l'Iran. Et ce, alors que le pays est aujourd'hui frappé par une pauvreté endémique et un chômage de masse. Autant dire que la tâche s'annonce rude pour le prochain Premier ministre. Enfin, précisons que le gouvernement, Premier ministre compris, restera en poste jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe soit choisie. À Hong Kong, des dizaines de milliers de manifestants sont retournés dans la rue. Hier, une nouvelle journée de mobilisation qui a vu notamment le retour des confrontations violentes entre certains manifestants et les policiers. Les militants anti-gouvernementaux continuent de dénoncer l'influence exercée par la Chine sur les affaires du territoire. Et puis c'est dans ce contexte que l'on a appris ce matin que la Chine, conformément à ce qu'elle avait annoncé 3 jours plus tôt, a choisi de sanctionner la marine américaine ainsi que plusieurs ONG. Des mesures de représailles donc contre le soutien des États-Unis à Hong Kong. Les explications à Pékin de Simon Le Plâtre.
C'est une réaction à minima. Après la signature par le président américain Donald Trump de l'axe sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong, la Chine avait parlé d'une abomination. Cette loi soumet le statut économique spécial de Hong Kong à un examen annuel de la situation des droits de l'homme dans la ville semi-autonome. Aujourd'hui, la Chine a répondu avec des mesures qui paraissent assez modestes, la suspension des escales de récupération des navires de guerre américains à Hong Kong et des sanctions contre des ONG américaines qui ont des bureaux à Hong Kong comme Human Rights Watch. Pas de quoi fouetter un chat, ces ONG sont déjà interdites en Chine et pour l'instant, la nature des sanctions n'a pas été précisée. Ces sanctions, modestes, après les coups de menton de la Chine, suggèrent que Pékin joue la prudence pour éviter de trop froisser les États-Unis en pleine négociation d'une trêve dans la guerre commerciale qui oppose les deux puissances. S'attaquer à des ONG américaines accusées de soutenir le mouvement de Hong Kong ne changera pas grand-chose à leur aura à Hong Kong, si bien que ces sanctions pourraient être plutôt destinées à prouver au public chinois de l'intérieur que le pouvoir est ferme face à ceux qui font la promotion de la démocratie, plus qu'à porter un coup aux intérêts américains.
On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui, marqué notamment par une amélioration sur le sud-est où le Var et les Alpes-Maritimes comme le Vaucluse sont repassés de vigilance rouge à orange pour les inondations. Attention toutefois au risque de ruissellement et de débordement des cours d'eau sur les zones littorales où les sols restent encore totalement saturés après les forts épisodes pluvieux. Sur la majeure partie du pays, le ciel alternera cet après-midi entre grisailles et éclaircies sous un flux de nord à nord-est, à l'origine par ailleurs d'un très net refroidissement. Les températures afficheront entre 4 et 17 degrés et localement jusqu'à 21 degrés en Corse. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet.